Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Une partie d'échecs, Claude, qui change peut-être la face du monde.
Et elle inspire cette partie d'échecs au grand maître international Peter Heine Nielsen, une soumission fascinante que j'ai découverte sur le site du Républicain Lorrain. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si une espèce supérieure arrivait sur Terre pour nous montrer comment jouer aux échecs. Et l'espèce supérieure, Nicolas, c'est une équation mathématique. Oyez, oyez, c'est dans le journal Le Monde aujourd'hui, tel un garde-champêtre qui annoncerait les temps nouveaux. Annonce a été faite le 5 décembre, en plein milieu du London Chess Classic, l'algorithme d'intelligence artificielle Alpha Zero a éreinté Stockfish, champion du monde des programmes d'échecs 2016, très supérieur à n'importe quel champion humain. Comme dit le grand maître français Maxime Vachier-Lagrave, moi-même en rêve, je serais incapable de battre Stockfish une seule fois. Eh bien, l'algorithme a battu Stockfish 28 fois sur 100 parties disputées. Aucune défaite dans une guerre des circuits électroniques dont l'espèce humaine n'est que spectatrice. Tout ceci est magistralement expliqué. C'est une révolution que nous raconte le Républicain Lorrain donc, et Le Monde qui reprennent ce que les sites spécialisés nous disent depuis une dizaine de jours. Stockfish, donc le vaincu, c'est la force brute. Un calculateur qui analyse 70 millions de coups à la seconde. En face, AlphaZero, ce sont les neurones. C'est un programme conçu comme le cerveau humain pour apprendre. Ses concepteurs lui ont simplement enseigné les règles du jeu et ensuite, il a joué ce programme des millions de parties contre lui-même. Il a appris et il a ratatiné la brute en faisant preuve d'audace et en sacrifiant des pièces et des positions. Et du coup, vous lirez dans les journaux, nous sommes supporters d'AlphaZero. Il y a une familiarité, presque une revanche. Stockfish nous écrasait, AlphaZero nous venge. Mais peut-être nous remplace, nous ne sommes pas rassurés. Du coup, c'est avec émotion que j'ai lu dans Uzbek Erika le plaidoyer d'une maman pour son petit garçon de 3 ans qui s'appelle Jules. Elle veut, cette maman, que Jules puisse survivre dans le monde nouveau et elle explique comment on doit initier le bambin au code informatique avec des jeux de cubes et de robots qui sont inspirés par une pédagogue du siècle dernier, Maria Montessori, qui savait, elle, que nos enfants, dès 6 ans, avant 6 ans, pardon, peuvent apprendre les nouveaux langages. Lira-t-il la maman de Jules, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui fait la une de Libération, journal de gauche, mais fasciné par cet adepte du retour à la tradition. Libération fait de ce bulldozer une lecture uniquement politique. Il est en train de vaincre les pédagogistes Blanquer, mais il y manque demain, si j'ose dire. Or, j'ai trouvé sur le site toulousain de la Tribune des propos de Blanquer tenus à Toulouse en novembre dernier, je cite. J'ai vu des élèves s'initier au code. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on retrouve dans le code informatique la logique de la grammaire. Par exemple, quand dans la construction des phrases, l'élève apprend à placer sujet, verbe, complément, l'école, dit le ministre, doit apprendre les fondamentaux, savoir lire, compter, écrire, respecter, mais aussi apporter un bagage en humanité numérique. Un bagage en humanité numérique, disons que c'est un début. Je lis aussi dans la Provence que l'on respire mal dans nos écoles, l'air des classes est vicié, plus mauvais que l'air extérieur, trop de CO2 et trop de chimie polluante. Il suffirait d'ouvrir les fenêtres pour que nos enfants aillent mieux. C'est un peu trivial. Mais ça compte.
Stéphane Le Foll voulait dire un mot sur...
Je veux dire un mot sur... sur
le ministre Blanquer.
Oui, sur le ministre Blanquer, qui fascine, en rappelant simplement qu'il faut aller à l'école pour apprendre à lire et à compter et à se respecter, ce qui est quand même une grande nouveauté, ça fait plaisir. Mais pendant ce temps-là, il y a une chose, moi, qui me frappe. C'est ce qu'a dit l'OCDE. Dans la moyenne des jours de classe des pays de l'OCDE, les enfants ont 180 jours de classe. Avec les 4 jours et demi, on est arrivé à peine à 160 jours. En redescendant à 4 jours, on va être à 140 jours. Alors après, on pourra m'expliquer qu'il faut lire, apprendre, compter. Avec 140 jours de classe contre 180 dans les autres pays, comment on fera pour rattraper le retard? Et M. Blanquer pourra rajouter des dictées, dire qu'il faut lire et apprendre et les fondamentaux, rajouter même les devoirs à l'école avec des journées de plus en plus lourdes et de plus en plus chargées. C'est un échec assuré. Voilà ce que je dis à M. Blanquer sur le fond.
Et on parle, Claude, maintenant de députés fatigués, c'est dans l'Opinion.
Et ça nous renvoie à cette problématique de l'espèce supérieure que les êtres ordinaires ne sauraient pas suivre. La presse aime bien les êtres supérieurs, en témoigne la une de l'équipe avec l'incroyable retour de la tenniswoman Bartoli, le chasseur de records de buts Cavani, mais en politique évidemment l'espèce supérieure c'est notre bon président Macron qui, en lire les journaux, est d'une autre espèce que nous, et nos journaux devraient se méfier de l'effet comique, presque involontaire, de ces portraits qui se suivent sur ce chef d'État qui dort si peu et réinvente la politique. C'est le Figaro qui s'y colle ce matin après tant d'autres sur Macron, le manager en chef des ministres. Le Figaro encore, qui publie cette interview étonnante du ministre des Finances allemand, Peter Altmaier, je cite. « Emmanuel Macron me rappelle Arthur Rimbaud, avec quelques textes et tout en étant très jeune, il était parvenu à créer un nouveau genre de poésie qui a influencé la littérature mondiale jusqu'à aujourd'hui. Schmeckt, ça a du goût. En contraste, l'humanité décrit Emmanuel Macron comme l'homme de l'inégalitarisme absolu, mais ce sont encore des superlatifs. Évidemment, en comparaison de Dark Vador ou de Rimbaud, l'être ordinaire a du mal, et notamment ce député que l'opinion nous décrit au bord du burn-out. Ils travaillent trop, nos élus, leur vie privée en souffre. On est parti pour un nombre de divorces sans précédent, dit un élu La République En Marche des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, qui risque les moqueries, comme cette collègue qui se plaignait la semaine dernière d'être mal payée au point de devoir manger des pâtes. C'était déjà dans l'opinion, qui reprend donc un bon filon. Cela dit, il y a un sujet, la contradiction entre le parti pris d'ouverture à la société et cette espèce de mixture entre une culture de la firme et le folklore viril des séances de nuit au Parlement. Tiens, la ministre Marlène Schiappa fait venir ses filles à son ministère. Elle mange un croque-monsieur devant une télé pour enfants quand maman travaille. Pauvre gosse. Pendant ce temps-là, le Parisien nous parle du fléau de la grippe qui nous met à plat en une heure et force nos patrons à s'organiser. On renvoie le salarié toussé à la maison. J'attends avec impatience le sujet sur les députés LREM grippés, mais fidèles au poste.
Vous avez pas l'air au bord du burn-out, vous, Stéphane Le Foll ?
Non, j'ai pas l'air...
Ah bon, hein ?
Bah écoutez, moi j'ai fait 5 ans comme ministre de l'Agriculture, 3 ans et demi comme porte-parole du gouvernement. J'ai appris pendant cette période à travailler suffisamment, à endurer, à résister.
Voilà, ils sont tout nouveaux, ils sont
ils mais ce qui m'a frappé, c'est que au-delà de
mais vous les voyez, ils sont
oui,
vraiment objectivement crevés.
Non, moi je vois pas des gens qui arrivent en me disant j'en peux plus. Non, j'ai pas vu ça. Mais Ce qui était frappant dans le début, c'était le côté on fait de la politique, mais on vient du privé, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc nous, on fait ça par plaisir, et puis une fois qu'on aura fini notre mandat, on repartira. Bon, ben la politique, c'est astreignant, voilà. Et c'est pas si simple, et donc à partir de là, ça doit faire réfléchir tout le monde sur la manière dont on doit organiser cette démocratie.
Allez, pour terminer, Claude, la Catalogne dans les journaux.
Oui, très rapidement, elle est à la une de la Croix, cette Catalogne fracturée qui vote demain. Libération lui consacre aussi un reportage et son portrait quotidien. L'héroïne du jour de Libération s'appelle Lorena Roldán. C'est une des figures du parti de droite Ciudadanos, citoyen qui s'oppose aux indépendantistes, et elle a pris conscience politiquement en 2013. Elle avait 32 ans, une catalane d'origine andalouse qui travaillait pour la ville de Tarragone. Ses collègues sont allés participer à la fête nationale catalane. Cette année-là, une grande chaîne humaine pour l'indépendance. Elle y est allée aussi, sans y croire, parce qu'elle avait peur autrement de perdre son travail. On lit ce genre d'histoire dans La Croix également, à propos d'une terre où la revendication nationaliste, patriotique, avait pris aussi des traits d'oppression. On ne l'avait pas vu tout de suite.
Merci Claude Ascolovitch pour cette revue de presse.